Bonsoir à tous. Pour vous rasseoir, nous parlons de la passion pour Dieu. Et ce soir, on va beaucoup intercéder dans cette perspective-là parce que je vais apporter des précisions encore dans l'enseignement du dimanche avant de pouvoir rentrer à la prière. Nous sommes en train de parler de la passion et c'est un sujet très très important, la passion pour Christ. Donc, pour ceux qui prennent leurs notes, rappelez-vous que dimanche dernier, on a parlé de la passion pour Dieu. Et on a défini la passion comme étant un sentiment ou une émotion de joie qui porte le cœur de celui qui l'éprouve vers la chose ou la personne qui fait l'objet de cette passion. C'est aussi un état affectif qui nous pousse à aimer une chose ou une personne avec ardeur. Cet amour est si fort que la volonté de celui qui éprouve cette passion est soumise aux injonctions de la chose ou la personne aimée. La personne ou la chose aimée devient en ce moment un délice pour la personne passionnée, c'est-à-dire un plaisir immense. C'est pour cela que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden, parce que dans ce jardin, effectivement, il y avait toutes sortes de délices, notamment la présence de Dieu, la personne de Dieu elle-même. Voilà pourquoi ce jardin est appelé jardin de délices. D'ailleurs, David peut l'exprimer dans le psaume chapitre 16, verset 11. Il dit, « Ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. » Il y a d'abondantes joies devant ta face, ou encore dans ta présence, ou devant toi, ta personne, des délices éternels à ta droite. Nous voyons vraiment que la présence de Dieu et la personne de Dieu elle-même représentent le délice dans sa personnification. Et c'est pour cela qu'effectivement, quand il crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden. Et ce jardin est appelé jardin des délices parce que justement c'est là, dans sa présence, devant sa face, devant sa personne, que nous pouvons vraiment éprouver le plus grand plaisir qu'un être humain puisse expérimenter sur la terre. Donc, en dehors du cadre d'Éden, donc de la présence de Dieu, il est impossible de vivre une véritable passion sur la terre. Et aujourd'hui, après avoir vu dimanche tous les aspects de la passion développés par le pasteur Nina et par moi aussi, j'aimerais vous parler des différents obstacles qui peuvent vous empêcher sur la terre, d'exprimer votre passion à Dieu de façon normale, comme tout bon chrétien devrait le faire. On le constate aujourd'hui, beaucoup de personnes disent aimer Dieu, mais dans leur comportement, dans leurs actions, dans leur façon de vivre, on se pose la question si réellement elles aiment le Seigneur, ces personnes. Et loin de moi ici, l'intention d'accuser qui que ce soit. Je sais très bien que l'ennemi de nos âmes est derrière pour nous décourager, pour combattre notre passion pour Christ, pour combattre notre passion pour la parole de Dieu, pour la prière, etc. Mais il y a quand même une clé fondamentale qu'il va falloir ce soir retenir et noter, sur laquelle il va falloir travailler, qui, lorsque nous l'avons, fait en sorte que même l'ennemi n'a aucun pouvoir sur notre passion pour Christ. Et cette clé se trouve dans Galates chapitre 5, verset 24. La Bible dit, ceux qui ont Jésus-Christ, ou dans d'autres versions, ceux qui sont en Jésus-Christ, et je préfère encore cela parce qu'il y a le fait d'être en Christ et le fait d'avoir Christ, ceux qui ont Jésus-Christ, c'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme sauveur Seigneur, donc nous avons Jésus-Christ dans ton cœur, ça c'est très bien, mais il est encore mieux d'être en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Christ en nous et nous en Christ. C'est deux dimensions différentes. Christ en nous, c'est j'accepte Jésus, gloire à Dieu. Mais moi en Christ, je deviens une nouvelle création. Alléluia. Et vous comprenez que tous qui acceptent Jésus-Christ n'ont pas forcément une nouvelle création. Parce que pour être une nouvelle création, il faut être en Christ. La nouvelle naissance intervient à ce niveau-là, quand je suis en Christ. Alors, c'est une parenthèse. Donc, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, la chair aussi a des passions et des désirs. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu aussi, a ses passions et ses désirs. Il est important de circonscrire la passion dont on parle ici. Quand je parle de passion, je ne fais pas allusion à une passion charnelle, parce que si on est sur ce registre-là, ben vous comprenez que la passion charnelle, elle est négative. Parce que la passion charnelle, déjà elle est charnelle à la base, donc elle est produite par la chair, et elle peut conduire à des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pour cela que parfois on parle de crimes passionnels. Les crimes passionnels sont causés par des désirs charnels, des désirs trop poussées sur le plan charnel qui peuvent amener une personne à être possessive, parfois violente, et à commettre des crimes passionnels parce qu'elle aime la personne à un point, je vais dire, à l'excès. Et c'est purement charnel parce qu'effectivement, à ce moment-là, ce n'est pas une passion qui vient de Dieu. Par contre, la passion dont je parle ici est le fruit du Saint-Esprit. C'est une passion qui est produite par le Saint-Esprit. Elle est générée par le Saint-Esprit. Elle vient de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5 nous montre la source de cette passion qui dit « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui déverse cette passion dans nos cœurs, cet amour ardent de Dieu. Comme vous le savez, la passion, c'est l'amour ardent de Dieu, l'amour ardent de sa présence. Exactement comme cela a été le cas dans le jardin d'Éden. D'accord? Et donc, ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Cette passion, je ne peux pas me la fabriquer. Donc, quand on parle de passion pour Christ, il ne s'agit pas aussi de condamner qui que ce soit, de dire, ah, tu n'as pas la passion pour Christ. D'ailleurs, tu vois, quand tu viens à l'église, tu traînes les pas. Quand tu chantes pour le Seigneur, tu n'es pas passionné. Tu chantes sans conviction. C'est vrai qu'il y a des signes qui montrent qu'une personne n'a pas la passion pour Dieu. On peut voir, par exemple, quand il s'agit de prier, la personne n'est pas vraiment entraînée dans la prière, elle n'est pas facilement sensible à la présence de Dieu. Quand on parle d'adoration, elle a du mal à adorer le Seigneur, elle a du mal vraiment à rentrer dans la présence de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, elle a du mal à lire la Bible, elle a du mal vraiment à méditer la parole de Dieu. Tout ça sont des signes qui montrent que la personne manque vraiment de passion. Elle aime le Seigneur, c'est vrai, mais à un certain niveau. Mais elle n'est pas au niveau vraiment où elle aime Dieu avec passion. Voilà pourquoi elle n'est pas passionnée par la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Elle préfère lire d'autres ouvrages, d'autres manuels, ou encore des journaux, ou encore des magazines. Mais quand il s'agit de lire la Bible, elle a du mal à lire la Bible. Il n'y a pas quelque chose qui brûle en elle. Simplement, elle peut lire la Bible de temps en temps, elle peut venir à l'église, mais elle n'a pas ce feu dans son cœur. Voyez-vous ? Quand il s'agit de prier, c'est la même chose. Elle n'est pas vraiment enflammée par la prière. Quand il s'agit de venir à l'église, parfois, elle traîne les pas. Parfois, elle n'est pas très, très motivée. Elle va trouver des raisons. Il fait trop froid, il fait trop chaud. Je suis fatigué, j'ai trop de travail, j'ai une vie de famille, etc. D'accord ? Parce qu'il manque la passion, il manque le feu. Elle aime le Seigneur jusqu'à un certain niveau, mais il lui manque cette dimension de passion dans son amour pour Dieu. Alors, ce sont des signes qui montrent que la personne a un manque vraiment de passion. Quand il s'agit de servir Dieu, il y en a qui servent Dieu sans la passion. Ils viennent à l'église, ils servent Dieu, mais parce qu'ils veulent faire quelque chose, simplement, parce qu'ils ont des talents qu'on a identifiés, et puis pour faire plaisir peut-être au pasteur, pour faire plaisir à papa, maman, pour ne pas rester sans rien faire, pour ne pas rester oisif, alors la personne va se mettre à servir Dieu. Ou il y en a qui me disent, moi je préfère servir Dieu pour ne pas tomber dans le péché. On peut avoir plusieurs raisons pour servir Dieu, mais quelles sont nos raisons? Si nous ne servons pas Dieu avec passion, ça se voit. Ça se voit. Quelqu'un qui chante avec passion, ça se voit. Comme le frère Grégory. Toujours le sourire. La passion du Seigneur. Amen, amen. Toujours le sourire. Hein? C'est un exemple parmi tant d'autres. Okay? J'aurais pu citer d'autres personnes aussi. Mais ça se voit quand quelqu'un chante avec passion, il entraîne les autres. Comme je disais encore dimanche, il contamine sa joie aux autres. Okay? Et quelqu'un qui arrive, qui n'est pas joyeux, qui est triste, qui est vraiment broc, eh bien, elle peut être contaminée par la joie de celui qui est passionné. Ça, c'est super. Amen, amen. Au moins pour l'instant où il est là, il peut être câblé à la joie de l'autre. Donc il peut exprimer la joie par câblage. Alléluia. Et puis ça peut également relancer son moteur, relancer sa marche, gloire à Dieu. Hein, comme une voiture qui, la batterie est à plat, et puis vous venez, vous faites un câblage, et une fois c'est relancé, après il va rouler pendant un temps, et puis la batterie se recharge. Merci Seigneur. Amen, amen. Donc, quand je suis passionné dans ce que je fais, ça se voit. Et quand ça se voit, forcément, ça se contamine. Et c'est ça le but pour lequel le Seigneur nous a créé, c'est pour pouvoir contaminer ce qu'il nous a donné aux autres. Impacter notre environnement. Donner envie aux autres de servir Dieu. Donner envie aux autres d'être chrétiens. Combien de chrétiens aujourd'hui donnent envie à d'autres personnes d'être chrétiennes? Ou bien quand tu es dans ton école, tu te caches. Tu as peur qu'on sache que tu es chrétien. Tu as honte qu'on sache que tu es chrétien. Quel est ton comportement à l'école? Est-ce que tes amis savent que tu es chrétien? Est-ce que quand il s'agit de manger à la cantine, tu peux prier librement, sans avoir honte? Parce que celui qui est passionné de Christ n'a pas honte. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler
là où je travaille. Et puis on allait manger à la cantine. Et là, il y avait une sœur en Christ. Elle prie dans une église de la place. Au moment de manger, vous savez, dans une cantine administrative, il y a du monde. Et la sœur, elle commence à manger. Je dis, on va prier. Elle fait, oui, on va prier. Et je ferme les yeux pendant que je prie, elle a les yeux ouverts. Et chaque fois, je le faisais, mais je ne me rendais pas compte. Et puis un jour, il y a quelque chose qui me dit, je pense, le Seigneur, hein, ouvre tes yeux. Quand j'ouvre les yeux, elle est là, me regarde. Je dis, tu ne pries pas? Elle dit, si, vas-y, je prie dans mon cœur. J'avais compris le problème de la sœur, en fait. Elle était gênée. Elle avait honte de tout le monde qui avait autour. Il y a quand même plus de 1500 personnes qui mangent par jour, de 11h30 à 14h. Donc vous voyez, ce n'est pas évident, il y a de l'affluence. Mais moi, je suis tranquille dans ma foi avec le Seigneur. Je suis en harmonie avec moi-même, en harmonie avec mon environnement. Je n'ai pas de problème, je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi je ne veux pas prier? Et j'exprime ma foi et ma passion. Ce n'est pas du prosélytisme, non. C'est simplement de la liberté de conscience et de culte. Alléluia. Parce que le musulman, lui, ne va pas avoir honte d'exprimer sa passion pour son Allah. Hein, les gens qui aiment souvent l'écuménisme à dire qu'on prie tous le même Dieu. Non. Ce n'est pas le même Dieu. Et lui, le musulman, il n'a pas honte. Il installe sa natte. Hein, même à l'aéroport. Partout dans tous les endroits publics. Voilà. Pourquoi nous, qui avons quand même un style de prière assez discret, nous avons honte de prier. Et eux, où c'est vraiment manifeste, évident, ils n'ont pas honte de prier. Parce qu'ils sont passionnés de leur Allah. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas être passionnés de notre Jésus-Christ? Et on doit l'être. Il dit, Jésus, que si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est une parole très, très, très sérieuse. Et nous, les chrétiens, on doit comprendre que si nous ne manifestons pas notre passion pour Christ, eh bien, Christ aussi aura honte de nous devant son Père. Alléluia. Donc, il y a des signes qui montrent que quelqu'un est passionné ou pas. Dans sa façon de vivre la vie chrétienne, dans sa façon de servir le Seigneur. Si on a toujours tendance à te tirer pour venir à l'église, ça veut dire que tu n'es pas passionné pour le Seigneur. Si on a tendance toujours à te pousser avant de venir servir le Seigneur, c'est difficile, tu as toujours une raison, ça veut dire que tu n'es pas passionné. Et dans ton service pour Dieu, si tu ne fais pas le service de Dieu avec tout ton cœur, avec excellence, avec sérieux, ça veut dire qu'il te manque de passion pour Christ dans ton service. Parce que quelqu'un qui est passionné de Christ, quand il sert Dieu, il le fait avec sérieux, il le fait avec crainte et tremblement, et en même temps, il y met de l'excellence. Et il n'a pas peur d'investir. Hein? Quand je vois des gens qui, souvent, « Ah, je suis appelé au ministère pastoral, ah, je suis appelé au ministère de prophète, ah, je suis appelé au ministère de chantre, où Dieu m'appelle à faire la louange, etc. » Et quand je vois ces personnes, comment est-ce qu'elles vivent la vie chrétienne, ou bien comment est-ce qu'elles se comportent vis-à-vis des structures mises en place dans l'Église, justement pour les former dans cet appel qu'ils estiment avoir reçu du Seigneur, je suis parfois étonné, je me pose la question, est-ce qu'ils sont réellement appelés? Parce que quand tu es appelé, il y a une passion, et tu n'as pas peur de t'investir. Voyez-vous, moi quand j'ai été appelé, quand j'ai découvert mon appel, j'avais à l'époque 15 ans, et depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur, et plus précisément à partir de l'âge de 17 ans, j'étais vraiment à fond, mais je sacrifiais mon peu de bourse scolaire. À l'époque, c'était 24 000 francs CFA, alors c'est combien en euros? Ça fait peut-être dans les 30 euros, un peu plus peut-être. Je n'étais pas le seul. Le groupe de jeunes que je dirigeais, ils avaient compris. De toute façon, on n'avait même pas besoin de leur enseigner sur la passion. Parce que nous, on n'avait pas un message sur la passion comme vous aujourd'hui. Mais je vous assure que nous, on vivait cette passion-là, tout le monde. Et pendant l'été, on louait des bus et on allait dans les villages. On allait dans d'autres villes aussi de la région pour aller prêcher l'évangile dans des coins assez reculés où les voitures ne peuvent même pas rentrer. Dans des peuples qu'on appelle les pygmées, les peuples primitifs, on y allait. Et même des gens qui étaient pasteurs établis, affectés dans les églises, n'étaient jamais arrivés dans ces coins-là. Nous, on y allait. On avait à l'époque 17 ans, pour certains 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et chaque été, on était investis dans l'évangélisation. Et on dépensait notre propre argent. Et nos vacances scolaires, on n'allait pas les faire comme les autres parce qu'il y en a qui avaient leur programme, ils vont à la capitale, ils vont dans telle ville. Mais nous, on sacrifiait non seulement notre argent, mais aussi nos vacances scolaires pour aller évangéliser. Alors ça, si ce n'est pas de la passion, je ne sais pas comment on peut appeler ça. À nos risques et périls, à plusieurs reprises, on est passé à côté des accidents graves. On était à peu près 30 jeunes dans les cars, dans les bus. Et par moments, il y avait la pluie et ça glissait. Les voies ne sont pas comme ici. Moi, je me souviens, en plein milieu de montagne comme ça, il y a une voiture dans laquelle on était. Le pont a lâché et on a commencé à glisser. Et il était à peu près 5 heures du matin, sous la pluie. Il y avait un ravin de l'autre côté. Et le Seigneur nous a gardés. On est descendu, on a poussé la voiture sur la montagne. Des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ça, ce n'est pas la passion pour Christ. Je vous assure, quand vous voyez vos pasteurs là, ce n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas là parce que, non, il y a une histoire derrière. Je vous assure, il y a une histoire. Asseyez-vous parfois avec vos pasteurs, posez-leur la question, comment vous avez rencontré le Seigneur? Essayez de connaître le témoignage de vos pasteurs. Alléluia! On a failli mourir pour le Seigneur. Et j'ai vu des jeunes à l'époque qui ont sacrifié de leur argent, de leur temps, et qui ont risqué leur vie pour le Seigneur. Le pasteur Nina, n'en parlons plus. Elle faisait partie, et même après, quand elle est partie du Gabon pour le Maroc, c'était encore une autre dimension de persécution là-bas. Dès le premier jour, quand elle est arrivée, elle a reçu une pierre sur la tête. C'était vraiment la bienvenue. Bref, en tout cas, elle a risqué sa vie. Mais jusqu'à présent, nous continuons à servir le Seigneur. Il y a des signes. Et quand je vois des personnes qui disent, moi j'ai été appelé par Dieu, parmi les collaborateurs, donc il y a un à qui je dis, bon, tu fais telle chose, il commence, après il laisse. Je donne encore autre chose à faire, il commence, après il laisse. Et puis je me rends compte qu'à chaque fois, ce collaborateur, il ne finit jamais ce qu'on lui demande de faire, et il a souvent du mal avec les choses où on demande un peu plus d'investissement, un peu plus de sacrifice et d'endurance. Et je me disais, mais c'est pas possible, il a tellement de potentiel. Et puis je lui pose la question, mais alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Il me dit, mais moi en fait finalement je ne me sens pas trop dans ce que tu me demandes de faire. Moi je me sens plus dans l'enseignement, voilà, sensibiliser les gens, enseigner, conscientiser, exhorter. Et j'ai dit, mais c'est bien. Mais est-ce que tu sais que ça là, c'est même pas le tiers d'un ministère pastoral. C'est même pas le tiers. Parce que parler, tout le monde peut parler. Il y en a qui sont nés avec le verbe. Dès qu'il est sorti devant sa mère, au lieu de pleurer, il a fait, bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle. Considérant le fait que, anticonstitutionnellement, ah oui, ça c'est, bon, c'est une caricature, vous comprenez. Mais il y en a qui sont nés avec la parole sur la bouche, avec la langue facile. C'est-à-dire, manier la langue, là, oui. Il y en a qui ont ça comme un don naturel. Donc, à partir de ce moment-là, il peut faire journaliste, il peut faire homme de communication, interprète, voilà. Mais c'est facile de parler. Quand tu sais très bien parler, tu peux venir te mettre ici et puis commencer à expliquer les versets. Prêcher, pour certains, ça peut être juste venir. Voilà, tu commences à prêcher, ok, et tu commences à expliquer les versets. Tu lis tes versets, tu expliques. Servir Dieu, ce n'est pas ça. Parce qu'avant de venir ici, il y a un travail de fond. Et qui se fait dans le secret. Et le poids d'un pasteur, ce n'est pas seulement le fait de connaître la parole ou le fait de prier. Il faut être un homme de prière, c'est important. Mais mon expérience a prouvé que tu peux être un homme de prière, tu peux connaître la Bible. Mais si tu n'as pas une relation avec le peuple, ton ministère n'a pas de poids. Si le peuple ne te connaît pas, si tu ne rencontres pas les gens, si tu ne parles pas avec eux, si tu ne reçois pas l'entretien, tu ne les écoutes pas, tu ne les aides pas dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, et tu viens seulement ici et tu commences à parler, c'est trop facile. Le vrai travail d'un leader, c'est dans la semaine, dans les relations de proximité avec les gens, les écouter, les supporter, les porter, prier avec eux, les visiter, être proche d'eux, les appeler. Et quand tu fais ça, que tu sois pasteur ou chante, quand tu viens devant ici, le peuple t'aime. Parce que tu es proche d'eux. Et le peuple te reconnaît. Il y a une correspondance et une reconnaissance. Il y a une relation de légitimité qui s'installe. Parce que simplement, tu fais le travail du bon berger. Et quand je vois des gens qui se disent être appelés à plein temps à servir Dieu et qui n'ont pas le temps pour les âmes, je me demande vraiment. Eh bien, c'est très facile. Après, tu te mets sur Internet, tu commences à prêcher, tu ouvres un Facebook, un site Internet, tu commences à faire le télé-évangéliste, le télé-prédicateur, le télé-bishop. C'est trop facile. Et quand des gens comme nous, qui consacrons du peu de temps que nous avons pour aider le peuple de Dieu, mettons en place des plateformes comme Prophétique Online, pour essayer d'être plus efficient et plus efficace parce qu'il nous manque de temps. Donc on peut, à l'aide des outils pareils, aider le plus grand nombre de personnes. Ça y est, les mêmes personnes prennent des pierres, commencent à vous lapider. Et parfois tu dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Et après, voilà, on prend les dîmes, les offrandes, on se fixe un salaire, et après, voilà, on dit qu'on sert Dieu. Je ne suis pas contre le fait qu'un homme de Dieu doit être salarié, mais il faut encore que ce salaire soit justifié. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Hein, je me souviens encore, il y a des gens qui ont voulu nous copter là, parce que, mais comment, vous travaillez? Pendant que vous servez Dieu, vous travaillez? Oui, on travaille. Et vous faites tout ce travail-là? Mais nous, on a un pasteur. Lui, on ne le voit pas de la semaine, on le voit mercredi pour l'étude biblique. Pendant une heure, il fait l'étude biblique, on chante trois cantiques, après on fait l'étude biblique. Dimanche, il arrive, il prêche 25 minutes, et après il s'en va. Il ne prie pas pour les gens, il n'a pas d'entretien pour... rien du tout. Il ne fait que la prédication, que le prêche. Et il est payé à combien, tenez-vous bien? 4 500 €.
Ah oui!
Ah, ça paye gros, hein? Et quand on est rentré chez lui, la maison, waouh, ça c'est une maison de ministre. Et la voiture, tenez-vous bien, c'est pas n'importe quoi, c'est Mercedes ML. Et nous, on se tue à la tâche. Entretien, consultation prophétique, chasser démons, veiller. Comme disait un pasteur, il dit non, là, parce qu'il y en a qui font. Les cliniques. Donc, les cliniques spirituelles, ils appellent ça. Donc, vous arrivez dans son bureau, il y a une salle d'attente, et puis il faut prendre rendez-vous. Et après, chacun arrive, donc, avec son problème. Vous avez déjà les tarifs affichés. Donc, pour les maux de tête, c'est par exemple 30 €. Pour les problèmes de mariage, ça devient plus sérieux là. Ça, on est dans les à peu près... 150 € par dossier, selon le dossier, hein, selon qu'il s'agisse d'un divorce en cours ou encore situation à redresser et à débloquer. Délivrance, bon là on ne peut pas estimer. Là c'est hors forfait. Mais parce qu'on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit toi aussi. Ça peut durer toute la nuit. Ça peut durer un mois, un an même la délivrance. Et c'est vers des églises comme ça que les gens aiment aller. Oui, il faut voir, ils sont remplis là-bas et tout. Quand tu ne fais pas ça, non, on ne te prend pas au sérieux. Alors, ça, ce n'est pas servir de passion. Ils travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc, il y a des signes qui montrent si on a la passion de Dieu ou si on ne l'a pas. Il y a des signes qui montrent si on sert Dieu avec passion ou pas. Je sers Dieu parce que je l'aime. Je suis prêt à sacrifier ma vie. Je suis là sur la terre pour ça. Il m'a envoyé pour ça. Voilà, je vis pour ça. Donc, mon travail et tout le reste, ce sont des choses qu'il m'a données pour me permettre de le servir. Mais ça ne doit pas passer avant. Parce que pourquoi Dieu te donne un travail? Pourquoi Dieu te donne une femme? Pourquoi il te donne des enfants? Pourquoi il te donne un mari? Pourquoi est-ce qu'il te donne une maison? Mais c'est pour que tu puisses le servir. Maintenant, si toutes ces choses passent avant Dieu, en fait... tu ne sers pas Dieu comme il le faut. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est la passion pour Christ. Et je vois certains qui disent qu'ils sont appelés par Dieu. Ils ont du mal même à investir pour acheter un bouquin. Tu es chantre. Si je visite ta maison, j'ai peut-être du mal à trouver des CD achetés. Mais ce n'est pas ça la passion pour Dieu. La passion pour Dieu, tu dois avoir une discothèque, tu dois avoir une bibliothèque et tu dois investir. Parce qu'il est convaincu de son appel. Tu as appelé à la prédication? Ben écoute, investis, achète des bouquins, achète des bibles, toutes les versions possibles, étudie la parole, viens à l'école de ministère, viens à IMS. Mais comment tu peux dire que tu as appelé et tu ne veux pas être formé? Ou bien tu veux être formé sans investir? C'est trop facile. Et tu dis que tu es passionné? Non, tu ne peux pas être passionné. Regarde, quand tu es passionné des films, n'est-ce pas, tu vas au cinéma? Et au cinéma, est-ce que c'est offrande qu'on te fait là-bas? Amen, amen. Donc, quand vous êtes dans cette dimension de passion, il faut comprendre que ce n'est pas un acquis. Parce qu'il y a l'ennemi de nos âmes qui va essayer de combattre cette passion. Et donc, il existe des obstacles à la passion. Et j'aimerais vous partager quelques clés. D'ailleurs, une seule clé principale qui va vous permettre de vaincre les obstacles à la passion. C'est Galates chapitre 5, verset 24. Il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc la chair a ses passions, l'esprit a ses passions. Mais pour pouvoir exprimer la passion de Christ, il faut que nous crucifions la chair avec ses passions. Parfois on peut se dire, mais comment? Jésus a déjà crucifié la chair sur la croix, le péché. Comment nous on peut encore crucifier la chair avec ses passions? Mais en fait, Jésus a crucifié la chair à la croix potentiellement pour toi. De façon spirituelle, c'est fait. La chair a été jugée à la croix. Amen, amen. Donc la chair est crucifiée. On a prononcé le jugement de la chair. Mais vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un peut avoir été jugé et continuer à courir quelque part? Soit parce qu'il s'est échappé de prison, ou soit parce qu'il a été jugé mais n'était pas présent, n'était absent. Ok? Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le jugement est prononcé, mais il est important que ce jugement soit exécuté. C'est le cas de la chair. La chair a été crucifiée à la croix par Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et chaque fois que vous rencontrez un verset de la Bible qui vous dit que la chair a été crucifiée, c'est la vérité. Maintenant, dans la réalité, elle n'est pas encore crucifiée dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle continue à courir. Elle continue à vivre, elle continue à se manifester. Elle est comme quelqu'un qui a été jugé, condamné, mais qui continue à vivre quelque part. Il faut l'attraper. Poursuite à la chair. Attraper la chair. Wanted. Il faut afficher sa photo. Alléluia. Mais il faut l'attraper. Parce qu'il faut qu'on exécute contre lui le jugement qui a été décrété, qui a été prononcé à la croix de Golgotha. Mais il n'y a d'autres personnes sur la terre qui puissent attraper ta chair, si ce n'est toi-même. Pourquoi? Parce que ta chair se cache en toi. Ton corps abrite ta chair. Ton corps est la maison du péché. Donc, il n'y a personne d'autre qui soit mieux placé pour attraper la chair, pour arrêter la chair, si ce n'est toi-même qui l'héberge. Vous avez suivi des informations récemment, le malade mental qui allait tirer sur le photographe là, dans les maisons de presse à Paris. Là. Il continue à courir, il continue à courir, et puis à un moment donné, on a fait wanted, avis de recherche. Attraper. Attraper ce criminel. Vous savez qui l'a attrapé? C'est le monsieur qui l'hébergeait. Oui, il a reconnu la photo, mais c'est bizarre. C'est pas le monsieur que j'héberge. Ça a été plus facile pour la police de l'attraper. Pourquoi? Parce que celui qui l'hébergeait l'a livré. Vous hébergez la chair avec ses passions et ses désirs. Vous hébergez le péché. La police du royaume de Dieu est à la recherche de cette chair. Wanted, avis de recherche. TF1 Céleste a commencé à faire passer l'information au journal. Est-ce que quelqu'un a regardé le journal ce matin? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, il y a un avis de recherche. Il faut l'attraper, cette chair-là. Et il faut la crucifier. Amen, amen. Jésus a fait sa part. Maintenant, à nous aussi de faire la nôtre. C'est d'exécuter. Et souvent, quand on dit ça, on se dit, mais comment je peux crucifier la chair? Mais au quotidien, on peut crucifier la chair. Premièrement, Psaume chapitre 1, verset 2. Alors, à partir du verset 1, il est écrit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Première chose qu'il faut faire pour crucifier la chair, il faut trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia! Il faut avoir du plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Si je trouve du plaisir dans la parole de Dieu, la parole de Dieu devient mes délices. Je suis passionné par la parole de Dieu. À partir de ce moment, il n'y a plus de place pour les désirs de la chair dans mon corps. Il y avait un frère qui me posait la question, il me dit, mais je n'arrive pas à me débarrasser. Il avait un péché, vraiment c'était difficile de s'en débarrasser. Et il me disait, mais comment je peux faire? J'ai dit, mais tu sais, il me dit, mais je lis la Bible tous les jours. J'ai dit, mais tu peux lire la Bible, mais si tu n'aimes pas ce que tu lis, ça ne sert à rien. Et ça n'aura aucun effet sur le péché qui t'attire et qui te tient captif. Et je lui ai posé la question à l'envers. Comment tu as fait pour être lié par ce péché? Comment tu as fait pour trouver autant de plaisir dans cette chose au point où tu as du mal à t'en défaire? Il me dit, mais parce que j'y vais régulièrement, depuis toujours, je suis passionné par la chose. J'ai du mal à m'en défaire. Je la fais régulièrement et depuis des années. Je dis, voilà. Donc, c'est ta passion pour la chose qui t'a simplement lié. Tu n'es pas en fait lié par la chose, mais tu es lié par la passion de la chose. Donc, la victoire sur ce péché passe par la délivrance de cette passion. Si tu n'es pas délivré de cette passion, si tu n'es pas libéré de cette addiction, tu ne pourras pas vivre ta liberté, tu ne pourras pas aimer, voilà, la parole de Dieu. Parce que cette chose prend la place de la parole de Dieu dans ton cœur. Et on ne peut être libéré d'un désir que par un autre désir. Et ça, il faut le noter. Je ne peux être libéré d'un désir que par un autre désir. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour que tu sois libéré de cette chose-là, parce que ce qui te lie à la chose, c'est le plaisir à la chose. La Bible déclare que nous sommes tentés et amorcés par notre propre convoitise. Et la convoitise, c'est le désir. La convoitise, c'est le plaisir qu'on y trouve. La convoitise, c'est la passion qu'on y met dans la chose. Donc ça là, si c'est présent, tu auras du mal à en être libéré. Ne cherche pas à chasser démons, parce que démons ne fait qu'en profiter. Vous comprenez cela? Mais si tu chasses plaisir, tu chasses désir, tu chasses passion de la chose, tu es libéré de la chose. Parce que tu perds le goût à la chose. Et dès que tu as perdu le goût à la chose, automatiquement la chose perd son emprise sur toi. Or, tu ne peux pas perdre goût à la chose juste en décidant comme ça de perdre goût à la chose. Tu ne peux pas perdre le désir que tu as pour la chose juste en décidant, oui, je décide aujourd'hui de ne plus faire cette chose. Parce que le désir est dans ton âme, il est logé là, il est incrusté. Pourquoi? Mais parce que tu l'as nourri. Tu l'as ressenti au départ, tu l'as accepté, tu l'as nourri, tu l'as entretenu. Et pendant des années, il s'est incrusté en toi, dans ton âme. Il ne peut pas partir comme ça. Il faut un autre désir plus puissant qui vienne le déloger. Et la Bible déclare que ce désir, c'est le plaisir qu'on y trouve dans la parole de Dieu. Donc si je trouve du plaisir dans la parole de Dieu et que je la médite jour et nuit, pourquoi il dit jour et nuit? Mais parce que justement, les péchés que nous pratiquons, souvent nous les pratiquons jour et nuit. C'est pour cela que ça s'incruste facilement et profondément en nous. Parce que nous les pratiquons jour et nuit. Donc si je lis et médite la parole de Dieu jour et nuit, je vais au fur et à mesure faire naître d'autres désirs en moi, plus forts et plus puissants que les désirs qui me tiennent captifs. Et à partir de ce moment-là, le désir le plus puissant qui émane de la parole de Dieu va détruire le désir du péché qui est en moi. Et au fur et à mesure que je le fais jour et nuit, ça s'enracine en moi, ça s'ancre en moi, ça prend des racines, des profondeurs, et le mauvais désir ou les mauvais désirs disparaissent et les désirs de la parole de Dieu, les désirs de Dieu prennent place. Ça se fait tout seul. Jusqu'au jour où je me lève un matin, je n'ai plus envie de faire la chose. Parce qu'il y a un travail qui s'est fait intérieurement. Les gens qui me sont dit, je fais un travail. Comment ça va, sœur? Ça va bien? Oui. Mais on ne te voit plus là. Non, je me suis retiré, je fais un travail. C'est bien de se retirer, de faire un travail. Mais encore faudrait-il qu'on voit le fruit de ce travail. Parce que le travail, il est en profondeur. Et on voit la transformation. En fait, ce travail doit t'attirer dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur. Ça ne va pas t'isoler. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Alléluia. Ça te change. Ça te transforme. Parce que ça rentre au-dedans de toi. Ça change ta vie. Amen, amen. Le plaisir qu'on y trouve dans la parole de Dieu. Et quand tu as cette joie de la parole de Dieu, tu ne peux plus t'en passer. Tu deviens lié à la parole de Dieu. Au point que si tu n'as pas lu, tu n'as pas médité, tu sens un vide en toi. Tu te sens mal à l'aise dans la journée. Moi, c'est comme ça. Quand je me lève, si je n'ai pas eu le temps de méditer, de lire la parole de Dieu, parce que ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Pasteur, oui, ça m'arrive. Ma femme sait que là, je n'ai pas eu le temps. Parce qu'elle sent, tout d'un coup, je deviens calme, je deviens irritable.
Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on met la Bible en audio. Donc, je peux me rattraper pendant que je conduis, pendant que je travaille. Alléluia. Bon, le pasteur, il a dit que non, quand on travaille, on ne le fait pas parce qu'en fait, ce n'est pas notre temps. Ah oui, ce n'est pas notre temps. Ce n'est pas un sacrifice, ça. Hein? Ça, c'est le temps du chef. Bon, la pause, quand même, je peux le faire, non, pasteur Nina? Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, oui, quand elle l'a dit dans son message dimanche, j'ai seulement dit, hé, toc. Parce qu'il était derrière moi, il a entendu. Hé, toc.
Alléluia. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la met toujours à nuit. Donc, ma passion pour le Seigneur doit s'exprimer par ma passion pour sa parole. Et ça, ça va vaincre les obstacles de la chair qui combattent ma passion. Galates chapitre 2, verset 20. Une autre chose très importante qu'il faut faire. J'ai été crucifié avec Christ. Voyez-vous, crucifier la chair, c'est être crucifié avec Christ. Et quand je suis crucifié à Christ, qu'est-ce qui se passe? Il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si je crucifie la chair avec ses passions, en fait, c'est comme si j'étais à la croix avec Christ. Au moment où il crucifiait la chair, parce que quand on crucifie Christ, là, c'est la chair qu'on crucifie, puisqu'il a pris nos péchés sur lui. Donc la Bible déclare qu'au moment où je crucifie la chair, je suis en train d'exécuter ce que Christ a fait à la croix. C'est comme si j'étais, et c'est d'ailleurs spirituellement ce qui s'est passé, j'étais avec lui à la croix. Et on a crucifié ensemble la chair avec ses œuvres. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, regardez la conséquence. Je vis dans la chair, c'est vrai, c'est-à-dire dans ce corps. Mais tout en vivant dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La version Martin dit, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en chair, dans mon corps, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Waouh! Quelqu'un me suit ici? Il dit, je vis dans ce corps, c'est vrai, mais Christ est en moi. Je suis dans un corps de chair. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Ce n'est pas dans ma foi, mais dans la foi du Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que si je vis dans ma foi, eh bien ma foi, elle est limitée. Ma foi, elle obéit à l'enseignement que le prophète Sosthène Okumba a donné ici. La petite foi, la foi faible, vous comprenez cela? Ma foi peut être petite, comme elle peut être aussi faible. Mais elle peut faire des choses, gloire à Dieu, parce qu'il a dit, si tu as la foi aussi petite qu'un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, au toit de là. Mais la Bible déclare, et c'est l'apôtre Paul qui le dit ici, je préfère laisser de côté ma foi et vivre avec la foi du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que si ma foi est limitée, si ma foi peut être faible, si elle peut être petite, la foi du Fils de Dieu n'est pas limitée. Elle n'est pas petite, elle n'est pas faible. C'est la foi du Fils de Dieu. Alléluia! Elle est forcément grande, elle est forcément forte, mais c'est la foi du Fils de Dieu. Et de ce quoi, elle est incommensurable. On ne peut pas la mesurer. Alléluia! Donc, si j'ai crucifié la chair avec ses passions, je suis maintenant en Christ, Christ est en moi. La conséquence est quoi? C'est que je ne vis plus selon la chair. Alléluia! Même si je suis dans la chair, dans le corps de chair, je ne vis plus selon la chair. Oh, merci Seigneur! Ma chair abrite quelqu'un. Ma chair abrite le Christ. Ma chair n'est qu'une enveloppe. Mon corps n'est qu'un temple. Le temple du Saint-Esprit. C'est cela qui sert mon corps. D'abriter, à abriter le Saint-Esprit, à abriter le Christ. L'Esprit de Christ. Et une fois l'Esprit de Christ est en moi, parce que je suis né de nouveau et que j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, alors ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, il vit avec ses désirs à lui. Il vit avec ses passions à lui. Il vit avec sa foi. Il vit avec sa joie. Il vit avec son amour. Il vit avec sa fidélité. Donc, si moi, je suis en lui, je suis donc connecté à ses désirs, je suis connecté à ses passions, je suis connecté à sa foi. Ce n'est plus ma foi, mais c'est sa foi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui prie, mais c'est Christ qui prie. Et si Christ prie avec sa foi, il dit, si tu as seulement une foi, comme un petit grain de sénévé, ça c'est toi, hein, être humain. Mais maintenant, c'est Christ qui n'a pas une foi comme un grain de sénévé, qui a une foi incommensurable, si lui il prie. Parce que la Bible dit qu'il intercède au-delà de nous. Parce qu'il est en nous. Christ en nous, par le Saint-Esprit, intercède en nous. Donc ce n'est plus moi qui prie, c'est Christ qui prie. Et si Christ prie avec sa foi, la prière de la foi guérira le malade. Alléluia. Même dans les situations difficiles, je ne dois plus chercher ma joie. Je me connecte simplement à Christ et je télécharge sa joie. Alléluia. Oui, je télécharge sa joie. Et quand sa joie est téléchargée en moi, la joie du Seigneur fait ma force. Quelles que soient les circonstances. Donc chaque matin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me rappeler que ce n'est plus moi qui vis. La journée qui commence là, ce n'est pas moi qui vais la vivre. Parce que si j'ai la vie, le patron là, qui m'embête là, quand je veux le croiser seulement, ça va barder aujourd'hui. Donc je préfère, Seigneur, je crucifie mon moi. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Seigneur, cette journée-là, c'est toi qui vas la vivre. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Et si je fais cette prière le matin, je m'aligne à cette prière, en fait, je suis en train de me connecter à Christ. Et dès que je me suis connecté à Christ, je télécharge automatiquement sa foi. Et j'affronte les épreuves de la journée avec sa foi. Je télécharge sa joie et j'affronte les épreuves avec sa joie. Je télécharge son amour. Romains 5:5. Car l'amour de Dieu, ce n'est pas mon amour. Parce que mon amour est limité aussi. Mon amour là, si je regarde, mon amour a une règle. Mon amour aime ce qu'il aime. Mon amour salue ce qui le salue. Mon amour est gentil avec ceux qui sont gentils avec lui. Mon amour visite ceux qui me visitent. Ça, c'est mon amour. Mais l'amour de Christ n'est pas comme ça. L'amour de Christ est inconditionnel. Donc, si je vis avec mon amour, je vais être limité. Je continuerai à avoir de la colère envers ceux qui m'ont offensé. J'aurai du mal à pardonner ceux qui m'ont offensé. Parce que je vis avec mon amour. Mais si je télécharge l'amour de Christ, je vis dans l'amour du Fils de Dieu. Comme je vis dans la foi du Fils de Dieu, je vis dans la joie du Fils de Dieu, alors je vis dans l'amour du Fils de Dieu. Et quand je télécharge cet amour, c'est un amour inconditionnel. Il aime même ceux qui le persécutent. Il aime même ceux-là qui l'ont jugé, condamné, qui l'ont critiqué, qui l'ont accusé injustement. Il aime. Alléluia. Vous voyez que cela est possible. La vie chrétienne, c'est possible. Je télécharge. Comment? En me connectant au Saint-Esprit. Parce que toutes ces choses que j'ai citées, la foi du Fils de Dieu, la joie du Fils de Dieu, l'amour du Fils de Dieu, et vous pouvez même vous-même rallonger la liste si vous voulez, mais ce n'est rien d'autre que le fruit de l'Esprit. C'est produit par le Saint-Esprit. Donc si je me connecte au Saint-Esprit, alors je crucifie la chair avec ses passions et je télécharge les désirs et les passions de Christ en moi. Et même si je suis dans un corps charnel, je ne vis plus selon cette chair, mais je vis selon les choses du Fils de Dieu que j'ai téléchargées. Parce que le Saint-Esprit a cette fonction de prendre ce qui est dans le Père et nous le communiquer. Amen, amen. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul insistait à chaque fois en disant que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Parce que la communion du Saint-Esprit vous donne la capacité de télécharger chaque matin les choses qui sont dans le cœur de Dieu. La foi du Fils de Dieu, la joie du Fils de Dieu, l'amour du Fils de Dieu, la patience du Fils de Dieu, la fidélité du Fils de Dieu, les passions et les désirs du Fils de Dieu, vous téléchargez et vous remplissez votre iPad en Christ. Vous rentrez dans votre iTunes en Christ. Vous remplissez tous les titres là et vous mettez en boucle vos écouteurs spirituels. Il n'y aura plus de place pour la voix du diable. Plus de place pour la voix des démons. Plus de place pour la voix de la chair. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc voilà comment vous pouvez vaincre les obstacles à votre passion et comment vous pouvez exprimer votre passion pour Christ tous les jours. Tous les jours. Je vous assure, ce n'est pas facile dans la chair. On ne peut pas le faire. Ce n'est pas une œuvre charnelle. C'est surnaturel. Amen, amen. Et si on le fait, c'est pareil pour la guérison, ma sœur. Pareil pour la guérison. Pareil pour la délivrance. Tu te connectes au Saint-Esprit, tu télécharges. Ne télécharge pas la guérison. Tu sais pourquoi? Parce que la guérison, tu peux encore tomber malade après. Télécharge la santé divine. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc la volonté parfaite de Dieu n'est pas que tu sois guéri. La volonté parfaite de Dieu est que tu vives en bonne santé. Amen, amen. Donc télécharge la santé divine. Alléluia. Ne télécharge pas seulement les promesses. Télécharge aussi la bénédiction qui est cachée derrière les promesses, mon frère. Tu comprends? Télécharge ça. Amen, amen. Quelqu'un a-t-il besoin de pardon ici? Télécharge le pardon. Télécharge ça. Connecte-toi au Saint-Esprit. Laisse couler le pardon de Dieu dans ton cœur. Laisse couler. Est-ce que tu as besoin de ressentir un pardon de la part de Dieu? Il dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner et pour les purifier de toute iniquité. Il peut arriver que parfois on tombe, qu'on chancelle, mais nous devons nous reconnecter. Car parfois le réseau peut ne pas bien fonctionner, des problèmes de réseau, et puis on perd la connexion. Mais ce n'est pas grave, il faut rafraîchir la page. Alléluia. Il faut rafraîchir la page. Il faut réactualiser, il faut réactiver le réseau. Je ne sais pas, peut-être que tu as perdu la connexion. Je ne sais pas quand. Mais je vois des gens qui ont perdu la connexion. Vous pouvez rafraîchir la page. Vous pouvez vous reconnecter. Vous pouvez relancer. Vous pouvez redémarrer le système. Vous pouvez le réactiver. Vous pouvez vous reconnecter. Vous reconnecter au Saint-Esprit. Il y en a qui ont perdu le réseau parce qu'ils ont éteint le Saint-Esprit. Ils ont éteint l'Esprit de Dieu en eux. Par toutes sortes de circonstances. Par peut-être le péché. Par le découragement. Par la culpabilité. Par la rancœur. Toutes ces choses ont éteint le Saint-Esprit en vous, ont attristé le Saint-Esprit en vous, au point même de l'éteindre. Et aujourd'hui, vous ne vivez plus comme un chrétien, vous vivez comme un païen, comme un rétrograde. Vous venez à l'église, mais vous êtes rétrograde dans le fond de votre cœur. Ce n'est pas grave. Il vous pardonne. Confessez simplement. Souvenez-vous de là où vous êtes tombé. Repentez-vous. Demandez pardon. Et si vous demandez pardon, vous confessez. Il est fidèle et juste pour vous les pardonner vos péchés. Et pour vous purifier de toute iniquité. Il est Dieu de grâce, il est Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Et il vous lavera. Il dit là où le péché était comme le cramoisi, il rendra vos cœurs blancs, purs comme la laine blanche. Et pardonne les péchés. Et reconnectez-vous au Saint-Esprit et téléchargez la joie de la sainteté, la joie de ressentir que vous avez été pardonné, la joie de pardonner aussi à ceux qui vous ont offensé. La joie d'être dans la présence de Dieu. La joie de la parole de Dieu. Vous allez retrouver le goût aux choses de Dieu. Reconnectez-vous au Saint-Esprit simplement. Il est la source de notre passion. Il est la source de nos désirs. Merci Seigneur. Et quand j'ai crucifié la chair avec ses désirs, en fait j'ai crucifié mes propres désirs aussi en même temps. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi avec ses désirs. Alors, quand il dit qu'il me donnera ce que son cœur, mon cœur désire, en fait, ce n'est pas ce que ma chair désire. Mais il me donnera ce qui est conforme au désir de l'Esprit en moi. Alors, tu peux voir la bénédiction dans ta vie. Tu peux voir la guérison. Tu peux voir tout ce que tu recherches. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi avec ses désirs. Et ses désirs deviennent tes désirs. Et il te donnera ce que ton cœur désire, parce que ton cœur est rempli de ses désirs. parce que tu as téléchargé ses désirs. Alors ce que tu vas désirer, c'est ce que Christ va désirer. Et il va te donner tout selon les désirs de Christ en toi, selon les désirs générés par l'Esprit de Christ en toi, le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Lèvons-nous un instant à la présence de Dieu. Prions pour nos propres vies, car il s'agit de nos propres vies ce soir. Il s'agit de réveiller la passion, notre passion pour lui. Il s'agit de se reconnecter pour certains, de réaviver pour d'autres. Il s'agit de notre passion pour Christ, ou la passion de Christ en nous. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Yes, Lord. Si vous pouvez attraper les enfants, s'il vous plaît. Pasteur Nina, tu peux venir m'aider, s'il te plaît, à chanter ce cantique simplement. Et nous allons prier. Je sens que nous devons prier. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur sous l'inspiration de la grâce. Entretenez votre passion par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Entretenez votre passion par la parole de Dieu. Entretenez votre passion par la connexion permanente, la communion avec le Saint-Esprit. Entretenez votre passion. Prenez soin d'elle. Comme un bon chauffeur prend soin de sa voiture, il entretient. Il amène chez le mécanicien. Il change les huiles. Il renouvelle les huiles. Il veille à ce qu'il y ait toujours l'eau pleine, que ça soit toujours propre. De la même manière que tu entretiens ton véhicule, le Seigneur te dit ce soir, entretiens ta passion. Entretiens-toi par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels inspirés, chantant et célébrant de tout ton cœur les louanges du Seigneur. Prends soin de ton cœur. Prends soin de l'Esprit de Dieu en toi. Chéris l'Esprit de Dieu en toi. Car Dieu lui-même chérit le Saint-Esprit qu'il a mis en toi.
Seigneur, viens ranimer.
Alléluia.
Le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux m'éclairer.
Oh yes, Lord.
Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux.
Chante-lui encore.
Oh Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Oh, toi seul peux tout changer.
Yes, Lord.
Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux.
Ensemble.
Oh, Seigneur, viens ranimer.
Chante-le ensemble.
Le feu que tu as mis en nous.
Avec conviction de cœur.
Oh, toi seul.
Avec
peux
passion.
Tout changer.
Viens, Seigneur.
Oh, viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Reviens-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance.
Plus fort.
Reviens-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta main.
Exprime ta passion avec conviction. Seigneur, viens ranimer le feu.